présentation que je vais vous faire, ce n'est pas exclusivement sur ce projet-là, mais sur un thème autour du rapport de la distance et de la sexualité en général, ou en tout cas des relations intimes, et la manière dont il me semble que dans ce rapport entre distance et sexualité, l'interaction homme-machine, humain-machine, présente en fait un caractère adapté à ce rapport-là en fait. Donc, Jocelyne m'a présenté rapidement. Juste pour dire, en plus d'avoir fait de la recherche au Media Lab, j'ai créé avec d'autres personnes à Vienne une plateforme expérimentale en ligne qui s'appelle Superficielle et où m'est présenté un ensemble d'œuvres interactives. Ça s'update régulièrement et il y a pas mal de choses depuis dans 2000 quand nous l'avons créé. Donc au Media Lab en fait, j'ai travaillé dans un groupe de recherche qui s'appelle Human Connectedness, qui est un groupe de recherche qui, donc, comme son nom l'indique, a travaillé sur les relations humaines. Et il y avait une dizaine de chercheurs dans ce groupe-là sur les 5 ans que le Media Lab a duré. Moi, j'y étais plus précisément 2 ans et demi, en fait. Et le groupe a fonctionné, on va dire, 4 ans. Donc sur les 4 ans, il y a eu une dizaine de projets qui ont été créés et qui tous présentaient un travail sur justement comment l'interaction, comment les nouvelles technologies rentrent dans un rapport entre les individus. Comment est-ce que ça peut inventer ou être simplement dans la médiation des relations humaines. Donc voilà, ça c'est le site du groupe Human Connectedness avec tous les projets qui ont été réalisés. Et en fin de présentation, je vais revenir un peu sur ces projets-là et vous en présenter quelques-uns. Maintenant, le Media Lab s'est fermé en fait, au moins pour celui de Dublin. Celui qui est originel à Boston dure toujours depuis 1985 et continue. Mais entre-temps, il y a eu d'autres. La plupart des chercheurs qui quittent le Media Lab en fait essayent soit vont dans le milieu de l'entreprise, soit continuent dans le milieu académique, soit continuent encore dans les laboratoires de recherche privés. Et c'est ce qui s'est passé pour mon ancien directeur de recherche, Stéphane Agamanoulis, qui a collaboré aussi avec moi sur Passage. Il a créé le Distance Lab, avec qui nous sommes en réseau avec cette pièce. En fait, le Distance Lab est à Inverness, pas tout à fait à Inverness, à Forres, quelques kilomètres d'Inverness. En Écosse, tout au nord de l'Écosse, dans les Highlands. Forres, c'est la ville de Macbeth, en fait. Là où, en tout cas, Shakespeare a situé le plot. J'ai dit le mot en français. Et le Distance Lab est situé là-bas et se pose les mêmes questions à peu près que Human Connectedness, sauf se focalise sur le thème précisément de la distance. Mais pas seulement la distance entre les individus, mais pas seulement dans les relations intimes, mais dans tout un. Dans un certain nombre de secteurs, comme même dans le milieu du travail, comment est-ce qu'on peut améliorer les relations de confiance dans le monde du travail, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que des gens qui sont séparés, par exemple à l'hôpital, parce qu'ils doivent y rester longtemps, peuvent quand même garder un lien avec leur vie quotidienne. Donc il y a un certain nombre de questions qui sont posées et auxquelles le Distance Lab essaye de répondre. Donc en fait, là, la question, moi, qui m'intéresse plus précisément, c'est les relations intimes. Ou comment, finalement, les technologies permettent se servent d'une certaine manière de la distance qu'il y a entre les individus pour créer de l'intimité, pour créer des rapports particuliers, pour créer de l'amour, pour créer de la sexualité. Donc évidemment, les technologies telles qu'on les connaît aujourd'hui ne sont pas nouvelles. Je ne vais pas remonter à la préhistoire, mais simplement à l'écriture, à la poste, aux lettres. Et par exemple, les liaisons dangereuses, on peut se rendre compte qu'en effet, au XVIIIe siècle, on avait déjà des technologies pour correspondre et être connecté. Donc on avait la poste et on avait les lettres. ça montre déjà qu'il y avait un rapport très fort entre une forme de technique, de technicité de l'être humain pour être en contact et pour nourrir une relation. Évidemment, après, au 19e siècle, avec la révolution industrielle, on rentre dans vraiment un panel immense de technologies que je ne vais pas toutes les citer, je vais m'intéresser spécifiquement au téléphone. Les téléphones, pourquoi en fait ils s'insèrent particulièrement bien dans l'idée de relations humaines, c'est parce que les premières fois où on installe le téléphone, on s'installe par exemple dans le corridor des maisons bourgeoises. Le corridor est un lieu idéal, hein, d'une certaine manière, pour être caché. C'est un support flexible qui permet aux interlocuteurs de ne pas être dans le lieu public, d'être dans... Donc ça induit tout de suite une notion de rapport privé, en fait, de rapport privilégié. Après, le corridor, on a les téléphones publics aussi qui représentent un espace clos dans un espace public, et c'est déjà un élément, justement, qui facilite finalement une certaine forme d'intimité. Et puis le téléphone, c'est aussi une des premières, avec les lettres, où on a le temps finalement d'écrire et donc de temporiser la relation. Là, dans le téléphone, on est dans une autre forme de temporisation, mais on est aussi caché. Donc il y a aussi une forme, on va dire, de mystère qui permet à un couple, finalement, de rentrer dans un jeu de la relation. Alors évidemment, après, je fais un grand bond là. On est dans les emails. Et il y a aussi ce rapport-là, finalement, de l'écrit, de la temporisation, mais aussi du jeu, puisqu'on attend les emails. Hein. C'est le fameux film « You've Got Mail ». On attend, finalement, il y a une forme d'obsession vis-à-vis de la réception du mail qui fait qu'on est aussi à nouveau dans ce rapport-là de distance et en même temps de présence. Ce qu'il y a d'assez intéressant dans ces trois formes de communication, c'est que les trois jouent sur ce qu'on appelle, sur ce que Avital Ronell dans The Telephone Book a appelé l'angoisse, l'angoisse est l'obstacle de la séparation. Comment le fait que finalement dans le couple on est deux toujours et on est deux à distance, même dans une même pièce, même à un mètre, même pendant l'acte sexuel, il y a une forme de distance. Donc comment ces technologies-là jouent sur le fait de pouvoir moduler ce rapprochement, cet éloignement, etc. Donc il y a toujours une forme de séparation. Et donc à partir de ce moment-là, comme on accepte cette idée de séparation, il y a désir. Désir de se rapprocher, désir d'être avec l'autre, plus ou moins fusionnel selon les relations. Mais il y a toujours parce qu'il y a séparation, parce qu'il y a distance, il y a désir. Et donc ces trois modes de communication-là jouent assez efficacement là-dessus, sur ce ressort. Maintenant on rentre... L'email, on connaît ça depuis à peu près 15 ans, voire plus pour ceux qui sont... dans les milieux universitaires américains, mais pour nous, grand public, on connaît ça depuis, on va dire, les 10 ans de manière usuelle. Mais depuis quelques années, il y a aussi d'autres formes de communication, la messagerie instantanée, qui, elle, s'est énormément développée avec iChat sur Mac ou Skype. Qui ont permis aussi d'augmenter ces formes-là et finalement de réinventer à nouveau une forme de relation humaine. Là, on n'est plus dans l'attente du mail ou du coup de téléphone, on est dans ce qu'ils appellent en anglais « background presence ». C'est-à-dire qu'on est dans une idée que, par exemple, là, si vous voyez ma buddy list qui est affichée ici dans iChat, la plupart d'entre eux sont des gens que j'ai quittés quand j'ai quitté Dublin. Ça va faire maintenant 2 ans. Donc ça veut dire qu'on est dans un rapport où je ne les ai pas complètement quittés, ils sont toujours là avec moi. Et il y a une forme, il y a quelque chose d'assez rassurant dans cette dimension-là, de se rendre compte que finalement on peut rester en contact tout le temps, même si on passe pas à l'étape de je vais cliquer et je vais envoyer un message instantané, on est quand même dans un rapport où ils sont là, ils sont autour de moi. Et c'est à peu près comme ça que fonctionne Skype également. Au-delà de ça, évidemment, il y a tout ce qui est le web 2.0. Je vais en montrer plusieurs exemples tout à l'heure. Donc, les communautés d'intérêt autour des sites du type Friendster, MySpace, etc. Et en 2005, il y a une personne qui écrit des colonnes dans Wired, qui écrit des colonnes sur la sexualité spécifiquement, a montré comment le web 2.0 et l'Internet en général a révolutionné finalement nos vies sexuelles. Parce que, encore une fois, comme pour le téléphone que j'ai montré tout à l'heure, il y a une forme de rapport caché, de liberté finalement qui sort de l'écran. L'écran cache autant qu'il montre. Et là finalement, on peut se dire que l'écran libère, la temporisation d'Internet libère, et on voit dans un certain nombre de sites, les femmes autant que les hommes ont beaucoup plus de facilité finalement à être en contact, à dire les choses, à dire ce dont les personnes ont envie. Un exemple de web 2.0, ou en tout cas toute la masse de sites, de réunions de centres d'intérêt, de communautés d'intérêt. Donc on a par exemple Friendster, qui lui est, je montre finalement, l'intérêt de Friendster, c'est je montre qui sont mes amis. Et je reste en contact. De même qu'avec chat tout à l'heure, il y a une forme aussi de présence en arrière-plan. Je suis toujours là avec mes amis. Mes amis sont au nombre de temps, et c'est devenu presque pour certaines personnes une forme de jeu où on va jouer à qui a le plus d'amis, etc. Et là où ça devient un peu particulier, c'est quand on inclut des amis qui ne sont pas vraiment ses amis, mais qui sont quand même ses amis, bien qu'on ne les ait jamais vus, bien qu'on n'échangera peut-être jamais rien avec eux, mais c'est quand même nos amis. Ça réinvente aussi à ce niveau-là une forme de relation humaine, qui est non pas l'amitié ni l'amour, mais une forme de présence continue, permanente. Et on peut aussi, évidemment, on est averti de la date d'anniversaire, on est averti des dernières nouvelles, des dernières photos mises en ligne, etc. Orkut, qui est un concurrent de Friendster, qui lui a été racheté par Google, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, Google. Fonctionne exactement de la même manière, sauf que évidemment l'un émule l'autre. Donc chaque fois que l'un rajoute des fonctionnalités, ça fait rajouter des fonctionnalités à l'autre. Donc, dans Orkut par exemple, on peut dire alors cette personne est absolument extraordinaire, donc on lui envoie plein de smileys, cette personne est adorable, donc on lui envoie des cœurs, etc. Donc on se rend compte que finalement il y a aussi une forme un peu dérangeant dans le sens où ça transforme l'amitié en forme de statistique, quoi. Qui est la plus aimée, qui est ceci. Mais il y a, c'est ludique, c'est aussi comme un jeu, en fait, si on prend de cette manière-là. Cela dit, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est les emplois subversifs de ce genre de site. Dans Friendster, notamment, Dana Boyd, qui est une chercheuse aussi du MIT Media Lab, avait montré qu'on s'en servait comme réseau de drogue, donc c'est de prostitution, puisqu'il y a des facilités de mise en contact qui ne sont pas surveillées. Donc on peut facilement, comme ça, avoir des emplois subversifs de ce type-là. Mythique. Là, on rentre dans un environnement un peu plus traditionnel, où c'est des sites de rencontres, plus que Friendster ou Orkut, qui sont aussi d'une certaine manière des sites de rencontres, mais plus subtils. Mythique, là, c'est cash, quoi. Sauf qu'ils disent que les règles du jeu ont changé. Donc il y a aussi une forme de nouveauté dans la manière dont Mythic va procéder. Ce n'est pas, on ne va pas forcément y aller pour rencontrer l'âme sœur. On va s'y faire des amis, on va s'y faire des amants. Et il y a aussi une forme plus libérée de la rencontre, et notamment de la rencontre sexuelle. Craigslist, ça c'est aussi pareil comme dans Mythic. C'est des petites annonces, alors là qui vraiment parlent de tout, hein. On peut y acheter ses vélos, on peut y vendre je sais pas quoi, on peut chercher des annonces de job, des annonces d'appart, échanger son appart pour aller je sais pas où. Mais il y a aussi ici une forme aussi plus libérée dans le cadre de la petite annonce. On n'est pas dans un site ou dans un journal de petite annonce classique, on est dans un rapport beaucoup plus décomplexé. Par exemple, ici, quelqu'un cherche, un homme cherche une femme pour une green card. Ça, c'est vraiment soft, hein, parce que je pourrais vous rentrer dans le Craigslist et vous montrer des choses beaucoup plus hardcore. Je me suis dit, on aurait peut-être des enfants dans la salle, j'ai pas été aussi loin. Voilà. MySpace, lui, va au-delà de Friendster et de Orkut, mais finalement, à la base, c'était pas tellement pour la musique. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu un site de rencontres musicales, essentiellement. On va y découvrir les musiciens. Mais à la base, ce n'était pas forcément ça le but. C'est simplement qu'on s'est rendu compte que chaque outil, chaque site, chaque mode de fonctionnement de ces sites-là vont développer finalement un intérêt particulier. Il se trouve que MySpace est devenu la musique comme ressort particulier de rencontre. Et ça a aussi développé des nouvelles types de relations, notamment avec la musique au centre de la relation. Flickr, c'est comme MySpace, mais lui, sauf que c'était vraiment dès le début, c'était les photos. Il y avait ce rapport-là, où on est dans l'idée qu'on va se rencontrer par le biais de ces photos. Et à nouveau, on met les photos en ligne. Et là, on peut aussi imaginer plein d'emplois subversifs où les gens vont faire des groupes de photos, on va jouer à qui fera, par exemple, on va lancer une compétition, lancer un challenge. Ça va être faites toutes les photos que vous pouvez des gares, des horloges dans les gares, et alors chacun va ramener l'horloge de Sao Paulo, un autre de machin, de Bombay, etc. Donc à nouveau, là se construit une forme de collaboration à distance avec des gens qu'a priori on ne connaît pas. Et Delicious, que j'aime beaucoup comme site, parce que c'est cette fois-ci le centre d'intérêt, c'est vos favoris dans vos navigateurs. C'est-à-dire qu'on peut mettre en ligne ses favoris. À la base, ça répond à un besoin tout à fait classique. J'ai mes favoris, j'ai mes bookmarks sur mon ordinateur. Qu'est-ce qui se passe si je change d'ordinateur ou si je vais ailleurs, etc. J'ai besoin d'avoir mes bookmarks partout. Sauf que maintenant, ces bookmarks sont ouverts à tout le monde. Donc on peut se rendre compte, par exemple ici, que moi j'ai mis un site, le premier Essential Max OS Softwares. Il se trouve qu'il y a 1821 personnes qui ont aussi mis ce lien dans leur Delicious. Donc il y a aussi une forme là de point de rencontre avec quelqu'un. On se rend compte qu'on peut partager nos bookmarks. Donc on peut aller dans les bookmarks de la personne, se rendre compte qu'on a d'autres intérêts, découvrir des choses par le biais de cette personne et voir découvrir la personne elle-même. Alors, juste pour maintenant, là, on a vu plus des choses spécifiques au web 2.0 et je vais finir ma présentation sur des projets qui sont pas seulement liés au web, qui sont en partie liés au web et en partie liés finalement au-delà du web, liés au réseau. Et parler de certains projets qui ont été réalisés dans mon groupe de recherche à Dublin. Donc là, par exemple, on a c'est un projet de Jonah Brucker-Cohen qui s'appelle Mouse Traces et qui est un projet que je trouve particulièrement poétique parce qu'il consiste finalement à quelque chose de très basique, c'est-à-dire qu'on peut télécharger une application qui va capturer les traces des souris pendant qu'on utilise son ordinateur. Si vous avez déjà essayé de regarder vos traces de souris par peut-être une pièce interactive, vous vous rendez compte que quand on utilise l'ordinateur, la souris elle va partout, quoi. Là, ce qu'il propose, c'est de mettre, au-delà de vos traces de souris, de mettre les traces d'une autre personne au même moment. Et finalement, on se rend compte que les traces des souris parfois se superposent. Donc au-delà, on peut extrapoler sur l'idée que finalement, il y a un rapport très sensuel de vos traces de souris d'une personne à l'autre. Il faut s'imaginer que c'est un fil qui recouvre un autre fil. Mais au-delà de ça, c'est quand même une main qui recouvre un autre main. Tuna est un projet d'Ariana Bassoli qui elle a considéré en fait qu'on utilise tous des iPods, des MP3 players, des machins. Là l'idée c'est comment est-ce que, vous rendez compte, ces 5 personnes qui attendent le bus sont toutes sur des MP3 players, sauf que ce serait pas mal si on pouvait tous écouter la même musique en même temps. Donc elle a développé une application pour MP3 player Là, c'était sur un iPad, mais ça peut se développer sur un iPod, etc. Où je peux me rendre compte de la liste de musique qu'écoute l'autre et dire bah, j'ai envie d'écouter la même chose que cette personne. Et je vais sur la playlist de cette personne. Et là où c'est beau, c'est plus maintenant, vas-y, file-moi une cigarette pour finalement ce qu'on appelle en anglais break the ice pour parler à la personne, donc casser la glace, quoi. C'est, tiens, tu écoutes ça, j'aimerais bien te connaître parce que j'adore ce que tu écoutes, quoi. Voilà. Habitat, c'est un projet de Deepak Patel, où là, il s'agit plus de ce que j'appelais tout à l'heure background presence. Imaginez un couple ou une famille séparée par la distance. Vous avez une interface qui permet en fait aux personnes, par exemple la personne de gauche est en train de prendre le petit déjeuner, lit son journal et pose sa tasse de thé sur la table. Et la personne de droite est à l'autre extrémité du globe, la nuit, mais elle peut se rendre compte en fait par un travail sur l'image que l'image de la tasse que j'ai posée moi sur la table apparaît sur la table de l'autre personne à distance. Donc il y a comme ça un rapport de. On n'est pas forcément en contact direct par téléphone, par mail ou de visu, mais on est en contact les uns et les autres avec des éléments d'ambiance. Mutsu Goto, c'est un projet de Tomoko Hayashi, où là c'est par contre un rapport plus direct. C'est-à-dire que vous vous couchez, mais vous vous couchez à distance et vous avez besoin de sentir la présence de l'autre. Donc cette fois-ci, ce qu'elle a décidé de faire, en fait, c'est que vous pouvez dessiner sur votre corps. Et ce que vous dessinez sur votre corps se retrouve sur le corps de l'autre. Voilà, c'est à peu près ça en substance. Et enfin, passage. Et passage, si vous ne l'avez pas vu à côté, vous pouvez le revoir dans les jours qui viennent. En fait, l'idée, c'est qu'on a deux surfaces à distance, dans deux villes différentes. Et dans le contour de la silhouette d'une personne qui se trouve devant une des surfaces, se détache l'ombre pleine, la silhouette pleine d'une personne qui se trouve dans une autre ville, en fait. Et là, il s'agit plus particulièrement de jouer sur comment une interface interactive peut induire des éléments de relations intimes, peut induire de l'intimité, voire de la sensualité, voire de la sexualité. Alors évidemment, toutes les interfaces que j'ai présentées là, ce n'est pas de la sexualité telle qu'on peut l'expérimenter en vrai avec la personne de son choix. C'est vraiment évidemment toujours des rapports qui jouent, comme je l'avais expliqué, sur le désir, c'est-à-dire le désir en attente de voir l'autre, mais ce n'est pas une vraie relation sexuelle. Passage n'a pas cette ambition-là de définir de faire une vraie relation sexuelle. Déjà, il faudrait se demander ce qu'est une vraie relation sexuelle avant de pouvoir se poser ce genre de questions. Parce qu'il y a du cybersexe, mais est-ce que le cybersexe et du sexe, bon, ça, je ne vais pas rentrer dans ces questions philosophiques. Mais ce que j'essaye de mettre en place dans Passage, ou ce que j'ai essayé de mettre en place dans le passage, c'est quelques éléments qui sont en jeu dans la relation sexuelle, et notamment le corps et le mouvement. Ici, pour être en relation avec l'autre, il faut bouger son corps, il faut se déplacer, et il faut être au plus près possible de la surface d'interaction. C'est-à-dire que là, on n'est pas à distance de l'écran. Vous pouvez évidemment être à distance de l'écran, mais vous serez en entier si vous êtes au plus près possible de l'écran, donc vous êtes invité à toucher l'écran. Donc il y a déjà un rapport vis-à-vis de votre propre corps et vis-à-vis de cette distance qu'il y a avec l'écran qui d'habitude on se tient à distance, cette fois-ci on invite la proximité la plus intense. Et puis il y a le mouvement, puisque plus on bouge, plus on voit de l'autre qui se tient à distance. Et évidemment, il y a ce rapport, on va dire, ce n'est pas les corps tels qu'ils sont représentés dans la réalité, on est là dans du noir et du blanc. Donc ça atténue finalement l'impact du contact, mais on peut se demander si ce contact un peu abstrait finalement ne joue pas aussi dans un rapport d'innuendo, où on est un peu comme ça dans une découverte du corps de l'autre, finalement assez subtile et j'aime à penser sensuelle. Donc voilà, donc ça ne répond pas complètement à la question est-ce que on peut vivre la sexualité à distance par le biais des technologies, mais je pense qu'il y a en tout cas des choses qu'on peut intégrer d'une relation sexuelle dans une œuvre interactive pour induire certains éléments en tout cas d'intimité. Et je vais juste finir en disant, enfin en abordant le thème rapidement de la distance. On n'est pas dans un. Finalement, la distance, on la considère de manière négative. On considère toujours que la distance est à abroger, est à quelque chose qu'il faut dépasser. Il faut être finalement être le plus proche. Or, pour moi, il me semble que s'il n'y a pas distance, il n'y a pas relation. Et je dirais qu'au-delà de ça, la distance en tant qu'élément élément essentiel de la relation fait que finalement elle rapproche plus qu'elle éloigne les êtres. Voilà.